Hello messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hands On, le podcast où on met les mains dedans. Donc j'espère que vous avez tous les manches bien levées parce que on va en mettre partout, je pense, aujourd'hui. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table et qu'on essaie de se présenter. Le sujet du jour, c'est passion vs raison, synthétiquement, mais je pense qu'on va aborder des sujets aussi périphériques au sujet principal. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table rapidement et synthétique et qu'on se présente rapidement, chacun notre tour. Gabriel, je te laisse commencer.
Ça marche. Gabriel, donc moi je suis dev full stack de profession principalement. Donc je suis quelqu'un auquel ton sujet va bien raccord parce que je suis un passionné depuis mes 8 ans. Je fais du dev web comme du mobile, bas niveau, tout ça. Je suis vraiment touche à tout. J'ai un peu tout essayé. Je suis très très curieux. Un grand grand passionné de tech au final. Et aujourd'hui, je commence à m'intéresser un peu plus justement à ces aspects business, tout ça, métier dans les boîtes. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille avec toi dans ton équipe et je suis vachement heureux.
Et je suis heureux aussi. Tu peux nous rappeler ton âge, Gab?
J'ai 24 ans là.
Ok, merci.
Du coup, théoriquement, j'ai commencé à 8 ans. Donc je suis tombé dans la marmite très tôt, comme disait.
Ok, Khalid?
Yes, Khalid.
Ou Khalid?
Khalid, si jamais le kha c'est trop compliqué à prononcer, ça dépend, c'est pas forcément évident. Bientôt 40 ans, voilà, dans quelques mois là. Développeur web principalement depuis 16 ans environ. Donc j'ai vu toute l'évolution du web. Je me suis beaucoup impliqué aussi dans les communautés, un petit peu l'open source, mais pas mal les communautés parisiennes. J'ai pas mal participé à des meet-ups en tant que co-organisateur ou speaker. À des conférences aussi, jusqu'à ce que je sois papa. Et là, forcément, on a moins de temps. Voilà, je suis aujourd'hui engineering manager, où en plus d'être à la delivery, à la production, je coach et j'accompagne des devs pour les aider à grandir dans leur carrière, dans leur compréhension, dans leur appréhension du métier, enfin de notre propre métier, de ce que c'est que le métier de dev, et la collaboration avec les clients pour essayer de faire des choses de qualité, quoi.
Alors, en plus de cet aspect très haut niveau, tu as encore les mains dedans aujourd'hui, tu es encore très
Oui.
connecté à ce qui se passe en production,
Oui.
tu restes très opérationnel. Et ça,
Oui, oui.
c'est hyper intéressant.
Oui.
Ok, ça marche. Monsieur
Ok, donc un peu comme
Thomas.
Gabriel disait, je suis tombé dans la marmite aussi en étant jeune. J'aime bien me définir comme un mainteneur open source, moi. J'aime beaucoup ça, graviter autour de l'open source depuis des années. Mais sinon, à côté de ça, je suis quand même lead chez Minisoft. Lead Node.js côté back-end. Je lead une équipe de 8 développeurs. Pure back-end. Il n'y a pas de front.
Il n'y a pas de front. C'est intéressant ce que tu dis. On va rebondir
mais,
dessus
mais
après.
pareil, j'aime bien être quand même. Je suis quand même assez touche à tout à travers l'open source, etc. Même à travers mon parcours, j'ai fait du jeu vidéo. Je suis consultant, donc j'ai fait quand même des secteurs et des industries. Hein. J'ai fait du monitoring, j'ai fait plein de choses, tu vois. Donc j'aime bien aussi, tu vois. C'est ce qui est cool avec la tech, on peut faire pas mal de choses. Et voilà, ouais,
Ok, génial. Je vous propose de commencer fort. Moi, il y a une question qui me. J'aimerais commencer par une question en fait qui colle un peu au sujet principal de ce podcast-là, qui est passion vs raison. D'ailleurs, crédit à Michael Azerrad par rapport au titre de l'émission. Faut rendre à César ce qui appartient à César. La question, je vais la poser. Tiens, on va commencer par Gabriel. J'allais commencer par Ray, on va commencer par Gabriel. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition de ce que c'est synthétiquement. On plongera dedans un peu plus, on prendra un peu plus de temps pour diguer dedans juste après. La qualité logicielle. Aujourd'hui, voilà, on te dit, voilà, on parle de qualité logicielle. Pour toi, la définition de la qualité logicielle et avoir un peu toi ta vision de ce que c'est.
Ok, ouais. C'est pas la question la plus facile. La qualité logicielle, alors j'entends plusieurs choses par ça, parce que pour moi, tu as la qualité purement technique, qui va être code, architecture, design, mais aussi tu vas avoir la qualité, on va dire, enfin tu vas avoir la partie fit avec le besoin et le métier. Des fois, un logiciel de qualité, ça peut être un logiciel ultra simple, voilà, comme on disait, qui n'a pas forcément besoin d'une clinarchie, enfin une hexarchie, etc. Des turbo-machines, des fois on fait juste des CRUD, très simple. Et là, on a juste besoin d'aller au but. Et Bien sûr, la qualité logicielle, ça vient aussi avec des tests, tu vois, des process dans ta team, review, etc. Mais où t'es quand même attentionné sur ce qui va être posé. Pour moi, en fait, le but, un logiciel de qualité, c'est un logiciel où les problématiques ont été identifiées et traitées une à une avec des solutions les plus simples et qui fitent le plus.
C'est intéressant. Khalid, je peux te laisser rebondir sur cette question-là et te demander un peu qu'est-ce que c'est la qualité logicielle, parce que c'est vrai que... Mais j'aimerais juste ajouter une chose. Donc, un logiciel de qualité a forcément des tests. J'entends, mais c'est juste mon interrogation. C'est est-ce qu'un logiciel de qualité aujourd'hui a forcément des tests, et tu corrèles quand même beaucoup entre ce pourquoi on a créé le logiciel et l'objectif atteint, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est pas qu'un qualité logiciel, pour toi, synonyme pas uniquement qualité technique.
C'est ça.
Ok.
Vas-y.
Et vas-y, Khalid, je te laisse. C'était juste pour bien comprendre ton propos. Khalid, est-ce que tu pourrais nous donner un peu aujourd'hui ta définition, toi, synthétique de... c'est quoi un logiciel de qualité?
Alors, je suis... pas faire le trublion, mais je suis pas tout à fait d'accord. En fait, enfin, j'entends tout à fait, c'est normal. Surtout quand on est plus jeune, forcément, on commence par se focus par son petit périmètre, enfin, son petit périmètre. Parce qu'on comprend, on rentre d'abord dans le dev par la technique, évidemment. On rentre d'abord par le code, etc. Ça, ça n'a pas trop d'importance, en vrai. Selon les cas, ce qui est important, c'est que les utilisateurs soient contents et qu'ils en aient pour leur argent. Ça suffit, en vrai.
D'accord.
En vrai, ça suffit. Si dans le temps, évidemment, parce que une release, c'est pas parlant. Une release, on peut écrire un torchon, on peut écrire ou un truc le plus beau possible, ça n'a pas de valeur. Il faut mesurer sur le temps. Mais si dans la durée, les utilisateurs sont toujours contents, ils sont satisfaits, et parfois même, on arrive même à aller un peu plus vite ou à les surprendre et à faire des choses. Ah, mais là, c'est super cette feature, ou ça va encore plus vite que ce que je pensais et tout. Elle est là, la qualité. En vrai, elle est là, la qualité logicielle. Ça se reflète forcément dans le code à un moment donné, mais pas forcément avec du code de qualité. C'est plus le fait de shipper ce dont les utilisateurs ont besoin dans des délais déjà physiquement possibles, parce que des fois, les métiers demandent des choses, excusez-moi, mais les lois de la nature, les lois de la physique ne permettent pas de faire ce que vous demandez, donc c'est pas possible. Mais
on peut parler d'eux, ils sont pas là.
ça me rappelle un sketch sur les mathématiques où la nana fait « qu'est-ce qui vous arrête ?» Le mec, il dit « les lois de les mathématiques, quoi. »
Voilà. Parfois, on peut pas faire ce qui est demandé parce que c'est pas physiquement possible, quoi. Enfin, voilà. Mais tant qu'on reste dans les lois de la physique, l'important, c'est de shipper en temps et en heure, de manière continue, sur un an, sur deux ans, sur trois ans, etc. Tant qu'on arrive à shipper en temps et en heure, ça, c'est le marqueur, c'est la preuve que ce qu'on fait, c'est de la qualité. Qu'on a fait de la qualité parce qu'on arrive continuellement à shipper toujours en temps et en heure, en qualité suffisante, avec pas trop de bugs, évidemment, parce que si à chaque livraison, il faut passer trois mois à corriger des bugs. Bah non, forcément. Là, on réduit la vélocité générale. Mais tant qu'on arrive à shipper, en vrai...
In fine.
Ok. En vrai. Je vais juste rebondir sur... j'aimerais bien avoir le prisme également de Thomas.
Je suis assez d'accord avec lui, surtout que quand on parle de qualité de code, c'est compliqué d'avoir une réponse bien figée, parce que nous qui sommes sur LinkedIn, qu'on débat souvent des choses, en fait, ça dépend beaucoup des pratiques, du niveau de chacun, de l'industrie... Oui. De tout ce qui va être appliqué. Oui. Je disais aussi à Mathieu, par exemple, moi, j'ai des situations où, des fois, quand on fait du command line, etc., moi, j'ai des situations où écrire des tests, par exemple, pour moi, c'est une perte de temps complète sur la partie command line, etc., en tout cas, sur certains projets sur lesquels j'ai bossé. Donc, en fait, tu vois, c'est compliqué quand tu n'as pas le contexte de savoir exactement qu'est-ce que la qualité. Et je rejoins dans le business. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir...
Est-ce que le client est satisfait?
Est-ce que le client...
Est-ce qu'on arrive à shipper?
Même les partenaires, par exemple, moi, je travaille client au sens, tu vois, large, parce qu'on a des clients finaux, mais on travaille avec des partenaires en API. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que les développeurs, est-ce qu'ils ont compris nos API? Est-ce qu'ils ont galéré, tu vois? Donc, peut-être une vision un peu plus technique, mais le client, au final, ça devient le développeur, tu vois?
C'est hyper intéressant.
Et donc, après, je dirais que ça peut un peu changer, peut-être en open source.
Oui.
Moi, avec ma vision à moi. Mais là, c'est plus une question de survie. Généralement, enfin, la qualité, ça devient un rempart parce qu'on a besoin des fois d'être un peu défensif. Tu vois, parce que si on fait pas quand même un minimum de qualité, un minimum de doc.
Juste pour recontextualiser pour nos ouais. auditeurs, là on est parlé donc d'un contexte vraiment purement professionnel, business. Ouais. Mmh. Et là tu nous fais juste l'analogie, enfin tu nous fais une comparaison ouais, avec la même question.
Ouais, je transite avec la même question dans un contexte purement open source okay. où tu vas peut-être travailler sur des sujets qui sont purement techniques, quoi. Ou ouais. même purement brutalement techniques.
Bah oui, parce que le livrable, c'est le code. Ouais. Ça, là. Alors que dans le contexte business classique, ouais. le livrable, entre guillemets, c'est je sais pas, l'interface web ou l'application mobile.
Et donc là, c'est intéressant. Est-ce que ça ne devient pas finalement fondamental et vital pour un projet de comprendre les problèmes qu'on résout ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ship et pour qui on ship ? Et pourquoi on ship ? On est passé d'un contexte où ce qui était vital, bah, finalement, c'était le produit, l'expérience de l'utilisateur. Et finalement, tu vas te dire bah, peut-être que le code... Et il a peut-être moins d'importance finalement que l'expérience utilisateur au final, tu vois. Ou tu vas arriver dans un environnement beaucoup plus critique où la technique va vraiment.
Mais je pense que souvent c'est une combinaison.
C'est une combinaison ?
Parce que, en tout cas, moi, c'est l'opinion que j'ai, c'est que souvent, il y a beaucoup de développeurs qui se concentrent que sur le code et c'est mauvais, de ouf. Mais j'ai aussi beaucoup de développeurs qui surfocus des fois le côté métier en mode. Ouais, mais la technique, on s'en fout, en fait. Ouais. Ouais, mais sauf que les deux sont combinés, en fait. On va vers le métier, mais il y a de la technique. Et donc, il faut quand même... Si tu veux avoir quand même un minimum d'impact, c'est important d'avoir les deux. Parce que si techniquement, tu fais n'importe quoi, ça va généralement pas bien se passer, quoi. Donc, tu as toujours une combinaison des deux. Mais c'est clair que si tu comprends pas les objectifs du business, c'est ce clair. Que tu dois résoudre, ça va mal se passer. Quoi.
C'est ce que tu exprimais tout à l'heure, ouais, Gabriel.
J'ai pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en gros, oui, in fine, c'est tes utilisateurs à qui tu t'adresses, que ce soit du coup des développeurs, au final, sur des projets open source, ou du coup, voilà, des gens qui utilisent ton application sur leur téléphone, sur leur site web. Eux, ils s'en foutent de tes tests, ta qualité, on va dire, purement technique. Tu t'adresses à eux, mais forcément, tu dois mettre des choses en place, toi, de ton côté, que eux ne vont pas forcément voir, pour assurer une qualité logicielle quand même nécessaire. Oui, je ne dis pas que tout passe par la technique, et bien sûr, des moments, comme tu dis, oui, ça m'arrive de ne pas faire des tests sur des flows, parce que je n'y vois pas d'intérêt, ou je me dis que ce n'est pas assez critique pour l'utilisateur, tu vois, par rapport à la valeur que ça apporte.
Ouais, c'est toujours de toute façon une question de qu'est-ce que tu investis en termes de maintenance ? Enfin, tu vois, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que si tu vois à un moment donné que tu passes 40 heures à faire du testing et que ça te prend une maintenance qui est terrible et qu'en fait, ça t'a sauvé un bug sur un an qui t'a pris 10 minutes à corriger, enfin, tu vois, moi, c'est l'expérience que j'ai dans les command line. Et les gens me disent, bah non, mais écris des tests parce qu'il faut écrire des tests. Et moi, j'ai en fait, si c'est pour corriger un bug qui m'a pris 10 minutes sur un petit command line, c'est pas, tu vois, c'est pas utile.
C'est pas utile, ça n'a pas de sens. Donc, quand on parle de pratique, et juste rebondir sur le sujet sur lequel on est déjà. Donc, quand on parle de pratique, quand on parle d'écriture de test, et je vais mettre dans le même panier la pratique de certaines pratiques architecturales, type clean architecture, est-ce que on peut considérer que un soft, est-ce que l'architecture est la réponse à tous les problèmes déjà ? Est-ce que c'est une architecture qui devrait être adoptée dans tous les cas ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de propos qui vont dans ce sens-là, qui dit bah aujourd'hui, si on ne fait pas de clean architecture, si on ne fait pas de test-driven development, si on n'a pas ces pratiques-là, on ne peut pas écrire un logiciel de qualité. Et c'est des propos qui arrivent souvent de personnes qui ont une certaine influence, qui utilisent souvent des arguments d'autorité pour mettre ça en avant et dire si tu adoptes pas ces pratiques-là, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas capable de faire la qualité. Alors que tu as d'autres écoles qui sont totalement à l'extrême opposé, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que l'extrême opposé n'est pas forcément la meilleure chose parce que forcément le code à un moment a son importance aussi pour servir le métier. Moi j'aurais aimé juste avoir votre prisme par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire un logiciel de qualité sans faire de clean architecture, sans faire de test driven development et sans tester tout ?
Bien sûr.
Bien sûr. En fait, je prends
je t'en prie, Khalid.
Déjà, le monde logiciel est trop vaste pour le réduire à une seule type d'architecture. On n'écrit pas une base de données ou un OS, comme on n'écrit pas un jeu vidéo, comme on n'écrit pas un outil en ligne de commande, comme on n'écrit pas une application mobile, comme on n'écrit pas une application, je sais pas, de data analyse, de business oriented, de business intelligence ou de reporting. Enfin, tout ça C'est des applications qui ont des besoins et des contraintes très différentes. Jamais Linus Torvalds va dire « Ah non, je vais mettre l'architecture dans le kernel Linux. » Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Tu peux dire que dans le ELS Linux, il n'y a pas de clean archi.
Voilà, clairement, ça n'a aucun sens. Ou personne va faire de la clean architecture dans un jeu vidéo, par exemple. Et c'est du software. Mais genre tout à fait valide, quoi, tu vois, par exemple. Et ça n'a pas sens parce que la qualité, pour certains types de software, la qualité, par exemple, c'est d'abord la performance. Et il se trouve que dans le code, je prends cet exemple précis, mais ce qui est un exemple parmi tant d'autres, mais il se trouve que d'un point de vue logiciel, il y a une tension, il y a toujours et il y aura toujours une tension. On n'a pas encore trouvé mathématiquement, je pense, le modèle qui permet de lier les deux, mais il y a une tension entre la performance quand tu as besoin de vraiment tirer le maximum de ton CPU, ou de ta mémoire, ou ta carte graphique, ou je ne sais quoi, et les abstractions qui te permettent d'avoir un code qui exprime, qui est de haut niveau, avec du métier lisible, des abstractions claires, etc., où le code parle le métier. À un moment donné, le bas niveau, quand tu as besoin d'aller en performance, ça a été démontré, ça, que ça va toujours leaker, à un moment donné, dans les couches supérieures. Et donc, si la qualité première de ton logiciel, c'est la performance, ce que, par exemple, tu as besoin dans un jeu vidéo, dans un OS, ou une base de données, ou des choses... Ou ça peut être une application métier classique, mais c'est juste... Là, il faut que ça aille vite. Okay. Parce que, voilà, il faut que ça réponde vite. On a besoin que ça réponde en moins de 10 millisecondes, par exemple, ou moins de 20 millisecondes. Dans ces cas-là, par exemple, tu ne peux pas te permettre de rajouter des abstractions. Des abstractions, c'est antinomique, enfin c'est pas compatible avec de la haute performance. Tu peux les faire de manière à ce que ce soit correct, tu vois, pour une application de tous les jours, mais du coup, il y a déjà des cas logiciels, juste des cas, des use cases, où ça rentre pas, ça fit
c'est pas
déjà.
Compatible.
Déjà, de base, c'est pas compatible.
Et moi, c'est marrant qu'il dise ça, parce que tu vois, moi j'en ai fait, par exemple...
Tu peux parler un tout petit peu plus fort, Thomas,
tu vois. C'est marrant, moi j'en ai fait, tu vois, j'ai bossé sur, par exemple, du trading, sur des plateformes de trading haute fréquence.
Voilà, typiquement.
Et les gars... tout ce qui les intéresse, c'est faut que ton programme il soit à la hauteur en termes de performance, parce que c'est le point numéro un. D'ailleurs, exactement. C'est pour ça qu'ils m'avaient embauché, quoi. Ils voulaient un truc atomisé en termes de performance, parce que c'était... si c'est pas le cas, en fait, ça marche pas.
Ça fait pas le job, quoi.
Ça fait pas le job.
Exactement. Okay. Exactement. Moi, justement, j'ai une anecdote là-dessus. Je me rappelle, parce que j'ai travaillé aussi dans la banque, et les mecs à la banque, ils me disaient... chaque milliseconde compte, mais c'est même pas de la milliseconde. Il y a pas longtemps, j'ai vu un blog post d'un mec qui écrivait un programme de log pour loguer du code. Vous savez, loguer dans un fichier de log. Mais dans un contexte de trading haute fréquence. Et le gars, quand il décrivait voilà, la démarche qu'il avait, quand il écrivait son code, il imaginait le nombre de cycles CPU pour chaque instruction qu'il écrivait. Mmh. Et voilà, là, par exemple, ça, je sais que je vais accéder à tel registre en mémoire, j'en ai pour 12 cycles CPU. Donc, il compte en nanosecondes.
Mais pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, ce que tu veux dire par là, le message, c'est aujourd'hui, si on rajoute des abstractions, tu penses que dans une problématique comme celle-ci, d'accord, qui est par exemple la performance, là, faire de la clean architecture n'est pas forcément pertinent.
C'est contre-productif.
C'est contre-productif, peut-être à ce moment-là. Oui, d'accord, ok, c'est intéressant. Donc, toi, de ton expérience, Thomas, tu trouves aussi que c'était pas productif de faire la hiérarchie sur ce.
En plus, au début, il parlait aussi de jeux vidéo. Et moi, je trouve que, par exemple, avoir fait des années de jeux vidéo, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est le sbeul, le jeu vidéo. En termes, tu vas leur parler de clean archi, de je sais pas quoi, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est du charabia à tes mots, tu vois. Ça n'existe pas dans notre univers. Et donc, c'est vrai que quand je suis rentré, tu vois, dans d'autres contextes, dans d'autres secteurs, tu vois, vu que moi, c'est un peu ma force, tu vois, j'en ai fait pas mal. Tu vois un petit peu aussi, tu vois, les pratiques en vigueur, les choses comme ça, et tu comprends que des fois, si t'es expert sur un domaine, tu peux vite te dire, ça c'est le standard partout, alors qu'en fait, la tech c'est ultra vaste de ouf. Quoi.
Et là, je vais poser une question, je t'en prie Gabriel, juste je pose la question parce que j'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. À quel moment tu penses que la passion dans le développement logiciel devient nuisible pour prendre des décisions rationnelles? Et Gabriel, je peux te laisser si tu veux rebondir sur ça, mais c'est vraiment une vraie question que je me pose, c'est à quel moment...
toujours les débuts de questions.
Voilà, tu vois, début de questions, Gabriel, vas-y.
Ok, à quel moment ta passion devient contre-productive
dans ta capacité à prendre des décisions rationnelles, en fait.
C'est ça. Pour moi, en fait, t'as deux choses. Parce que t'as la passion, genre tu kiffes, par exemple, je prends l'exemple de la clean-archie, tu kiffes faire de la clean-archie. Quand tu commences à imposer justement ta vision avec des œillères, t'es comme ça et tu te dis c'est ça qu'il faut faire parce que ça m'a déjà aidé une fois dans ma vie, et je suis sûr que c'est le standard partout, et que tu touffes pas au domaine ou aux bonnes pratiques de ce contexte-là, par exemple. Donc si je prends un projet open source sur une libre réseau, tu vois, tu dis vas-y, je fais ma clean archi et tout, comme je fais d'habitude, ça marche. C'est sûr que oui, tu vas avoir des problèmes. Après, du coup, aussi, passion. Pour moi, la passion n'est pas forcément nuisible. Quelqu'un qui est plutôt éveillé, justement, sur ces problématiques-là, qui est passionné par le dev logiciel, bah, justement, il va aller plutôt chercher comment le contexte fonctionne et comment bien travailler dans ce contexte-là, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément nuisible. Ouais. Mais par contre, il faut avoir une certaine remise en question.
Ok. Donc, tu penses la passion sans remise en question, ces deux ingrédients mêlés peuvent devenir en fait problématiques.
Ça peut devenir aussi. J'ai rencontré des mecs, tu vois, qui jurent, par exemple, que par un langage. Tu vois, ils disent le JS répond à tout.
Non, c'est pas vrai,
mais tu vois, c'est faux. C'est faux, tu vois. Mais ça sonne faux direct, tu vois. Mais en fait, ces gens-là, ils sont focus sur leur truc, tu vois. Et tu peux pas, ils ont des œillères, tu peux pas, et ça je trouve ça dommage parce que du coup ils imposent leur vision partout ensuite.
Je pense aussi que, parce que tu dis est-ce que c'est nuisible, la passion etc, tu vois,
c'est pas, quel moment la passion en fait peut devenir nuisible pour,
je pense que beaucoup travaillent, enfin il y en a beaucoup qui vont rester un petit peu dans le même secteur, leurs habitudes, donc effectivement en fait ils auront un peu cette attache, par exemple, à un langage. On disait, si tu fais du web, par exemple, etc., enfin, tu vois, tu vas graviter autour de pratiques, tu vois, qui sont liées aux écosystèmes, en tout cas, qui touchent au web. On revient souvent sur... Bon, même si aujourd'hui, le web, c'est devenu quand même un sacré truc, tu vois. mais globalement, tu as quand même des pratiques qui s'installent, des langages. Tu vois, si tu veux faire du navigateur, bon, à un moment donné, JavaScript va pointer... n'importe ce que tu fasses, quoi, même la web plateforme, si tu fais du web, interagir avec le DOM, etc., il y a un moment donné, tu peux pas t'échapper, tu vois, donc il y a des choses qui reviendront. Donc, je pense que ça explique aussi pourquoi il y en a qui vont se fixer, tu vois, dans des pratiques et des choses comme ça. Et c'est pas forcément nuisible pour eux, tu vois, parce qu'ils vont continuer dans cette ligne-là, tu vois.
Ok.
Et mais demain, ils vont pas, par exemple, ils vont pas se mettre, enfin, ils vont peut-être pas se lancer dans un délire genre, je vais faire du jeu vidéo, je vais remettre en question, tu vois, tous mes skills.
Ouais, mais on peut se poser la question et se demander à partir de quel moment ces développeurs passionnés, tellement passionnés, peuvent devenir susceptibles d'aller à l'encontre des exigences du client finalement.
Ouais.
À quel moment, en fait, tu vois, on peut être tellement passionné, avoir tellement de croyances, ou peut-être de biais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qu'on va finalement à l'encontre de ce que disait Khalid tout à l'heure. C'est-à-dire finalement, la plus importante, la métrique la plus importante quand on parle de qualité, c'est la satisfaction client. Et à quel moment ça devient finalement contre-productif ?
Des fois, tu vas avoir des clients, oui. Eux, leur but, c'est que tu ships, comme disait Khalid, c'est que tu ships fast. Mais toi, t'es là, tu poses ton TDD, ta clean archi. Alors, je critique pas du tout, c'est sur une stack web, tu vois, ça marche. Et tu passes 6 mois à lui livrer sa feature, tu vois, qu'un stagiaire sorti d'école, bon, l'aurait mal codé peut-être techniquement, tu vois, mais il l'aurait chippé et le mec, enfin en une semaine, et le mec aurait été content, tu vois.
Ok.
Et ses utilisateurs finaux.
C'est complexe tout ça, tu vois.
C'est complexe.
Ça dépend tellement du client, de plein de choses que.
Tout à l'heure, mais là pour rester sur le sujet, tout à l'heure Khalid parlait des développeurs, ouais, la porte d'entrée c'est forcément la tech. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à un développeur qui commence le métier pour avoir un équilibre passion-raison la plus juste et avoir un référentiel qui ne s'écarte pas trop de la réalité et qui ne va pas être finalement devenir contre-productif pour lui? Quelle serait la meilleure porte d'entrée pour toi? Quelle serait la meilleure manière d'entrer dans ce métier?
Donc tu me demandes de donner des conseils à des juniors, c'est ça?
Junior ou...
Donc 40, quoi, c'est ça. Donc
un junior ou un senior qui veut un peu peut-être changer le prisme qu'il a du métier, ou que tu penses quelle est la meilleure manière de rentrer dans ce métier-là, en fait? C'est-à-dire que...
Forcément rentrer par le code, parce que c'est fondamentalement, c'est quand même un métier technique. On écrit du code, on parle à des machines, quoi... tout en se parlant entre nous, mais on parle quand même à des machines. Donc, il faut quand même comprendre la technique. Et Le mieux, c'est déjà de se diversifier le plus tôt possible pour ne pas s'enfermer, pour rester ouvert sur, voilà, faire un petit peu, je ne sais pas moi, de C ou de C++ ou de Rust, bas niveau par exemple, de faire du JS, c'est très bien de faire du web. Le web, c'est une très bonne plateforme qui permet de faire pas mal de choses. Et pourquoi pas faire voilà, un petit jeu dans un hackathon ou j'en sais rien, ou des petits jeux vidéo, hein, faire un Pong, un Tetris, j'en sais rien, tu vois, une calculatrice ou alors n'importe quoi. Essayer de se diversifier pour comprendre voilà, à quel point le software, c'est vaste. Et, pardon monsieur le micro, autre vrai conseil, celui-là il est dur, je m'en suis rendu compte dans ma carrière, celui-là il est dur, c'est de comprendre que, quoi qu'on sache, dans une carrière, entre guillemets, plutôt bien, savoir une carrière correcte où on continue d'apprendre, enfin on apprend en continu, on progresse en continu, généralement, on est junior jusqu'à une dizaine d'années d'expérience.
C'est fort ce que tu dis.
C'est pas ce que le marché du travail dit. Hein. C'est pas ce que se disent des recruteurs, etc. Et tout. Ah non, ça fait 3 ans que tu fais du React ou du, je sais pas quoi, du PHP ou du je sais pas. C'est bon, t'es un expert. T'es un senior, t'es bon. Alors qu'en vrai, d'un point de vue du métier, généralement, il faut une dizaine d'années pour comprendre vraiment fondamentalement c'est quoi notre métier.
Mais c'est intéressant ce que tu dis et je vais rebondir. Et Thomas, je vais te poser la même question pour voir un peu le prisme que t'as par rapport à ce que vient de dire Khalid. C'est vrai que dans les métiers comme d'artisanat, boulanger, menuisier, on reconnaît, enfin, genre c'est connu qu'en fait, on détermine qu'une personne a atteint une certaine seniorité après 10 ans. Moi qui ai travaillé anciennement dans le domaine de la cuisine pendant presque 10 ans, okay, il faut savoir qu'on considère qu'à partir de 10 ans, on considère un boulanger senior, un chef de cuisine senior, un menuisier senior, l'ébéniste senior, enfin un charpentier. Mmh. Et c'est vrai que nous, on a un métier qui est profondément un métier d'artisanat finalement. Et c'est vrai que nous, on considère qu'au bout de 3 ans, une personne devient senior. Mais après, ça dépend du point de vue et de qui on est, parce qu'on est tous différents. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Est-ce que tu penses...
Je crois que je suis safe, j'ai passé les 10 ans.
On l'applaudit, Thomas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Entre ce que l'industrie envoie comme message et la réalité du terrain, tu penses que...
Non, mais moi, je suis globalement d'accord avec ce que disait Khalid. Je trouve que c'est cohérent ce qu'il dit. Après, c'est vrai que, en tant que moi, je repense à moi-même, peut-être avec moins d'expérience, je me serais peut-être dit « Ouais, mais moi, tu vois, ça va, je me sens fort, tu vois. »
Justement, parce que...
C'est ça, le feeling qui est un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui, je me dis « Si c'est moi qui devrais me juger, tu vois, je serais assez rude, tu vois. » Donc c'est
sûr,
un peu compliqué.
Parce que souvent, on mélange... Bah là, en fait...
Ouais, une expertise sur un domaine.
L'expertise genre. Technique, où effectivement, ouais. Le fait de travailler 2-3 ans à toujours sur la même techno, par exemple, le même stack technique, effectivement, tu deviens bon au bout d'un moment.
Surtout quand t'es un bosseur, tu as de l'impact vite.
Voilà.
Mais globalement, en termes...
D'impact sur l'organisation, d'impact produit, d'impact ouais, large, et de compréhension du métier, du monde même, parce que c'est juste, quand on commence, on est encore jeune, on a quoi, 20 ans, enfin une vingtaine d'années, par exemple. On n'a pas encore compris toute la politique, l'économie mondiale, l'économie particulière du domaine, etc. Comment marche le monde du travail, comment marche le monde du business, ouais. Les flux financiers, etc. Ça, on a besoin de le comprendre. Et ça, en fait, c'est juste la maturité générale. Ouais. Et ça, forcément, ça vient avec le temps.
Ouais,
forcément.
Ouais, tu vois, y a les choses comme la communication, gérer les conflits.
Exactement.
Aussi, tu vois, okay.
Ça aussi, un peu de sagesse, effectivement.
Un tas de détails comme ça où, tu vois, moi qui... Là, maintenant, quand même, je gère une équipe. Je suis lead comme une assez grosse équipe, tu vois, depuis quelques années, tu vois. Je me rends compte aussi, tu vois, tout ce que j'ai appris, les situations à gérer, mais même dans les incidents, les choses comme ça, tu vois, ce que tu apprends. Gérer les incidents, tu vois, moi, je vois, j'ai des gars qui ont 4-5 ans d'expérience. Il y a un incident, les gars, ils sont sueurs et tout. Enfin, tu vois, garder son calme, être pragmatique, savoir quoi faire, tu vois, quand les choses vont vraiment mal, que tu as peut-être des gens qui te mettent la pression, tu vois. Tu te prends des pings... qu'est-ce que tu fais, tu vois, etc. Et tu vois, il faut que tu gardes ton calme. Et ce genre de choses où ça prend, effectivement, tu vois, ça prend des années d'expérience et d'avoir vécu, tu vois, ces situations-là au préalable, etc., etc. Ouais, tu vois, je parlais de communication, tu vois, de savoir bien communiquer, de savoir quand les choses, tu vois, quand faut itérer. Tu vois, moi, je gère beaucoup de chantiers de manière assez autonome. Tu vois, on me donne carte blanche.
D'accord.
Et là, c'est pareil. Oui. Il faut être assez mature sur quand relancer, comment faire les choses et tout.
Mais c'est intéressant. C'est pas facile. Et ça va nous permettre de passer au topic suivant, parce qu'on parle d'expérience, on parle d'années d'expérience, on parle d'expertise, on parle de compréhension de l'environnement dans lequel on évolue. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait, parce que c'est une question qui fait souvent débat. Est-ce que le développeur full stack existe? Et qu'est-ce qu'un développeur full stack? Vous savez, parce que c'est souvent, il y a pas mal d'arguments d'autorité autour d'arguments d'autorité qui dit, bah, si un développeur full stack qui sait pas faire de l'infra et du back et du front et à manger et c'est ce qu'on veut derrière, c'est pas un développeur full stack, mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à, comme a dit Khalid, le monde software il est tellement large que tu peux savoir faire tout ça et on te met sur dans une entreprise où c'est tu fais du jeu vidéo et tu vas pas y arriver, tu vois.
Quand tu parles de full stack, moi le premier truc qui me vient en tête c'est Stéphane Meyer sur LinkedIn qui fait des posts toutes les deux semaines.
Oh, ça balance.
Je suis sûr qu'il va regarder le podcast sur Super Sonia, tu vois.
Non, mais c'est intéressant, mais déjà j'aimerais commencer par Gab, qui est un peu plus jeune aujourd'hui, qui a énormément d'expérience, donc qui est jeune dans l'âge mais qui est très âgé dans l'expérience finalement. Je bosse avec lui aujourd'hui. C'est pas pour dire que un développeur full stack ça existe et c'est quoi, mais aujourd'hui voilà, concrètement dans les faits il touche de la ligne CSS jusqu'à la ligne de Terraform, tu vois. Et est-ce que c'est ça un développeur full stack ou est-ce qu'on va encore plus loin, genre est-ce qu'il doit aller encore plus loin que ça, genre est-ce que tu peux nous donner un peu ton prisme, Gab?
J'ai vachement du mal avec cette histoire de full stack. Genre dire qu'un dev il est capable de faire du front, mais il n'est pas capable de faire du back, comme l'inverse ou les deux. Pour moi, un bon développeur, c'est un développeur qui est à la fois capable de faire les deux, peut-être pas forcément de manière experte. Pour moi, un bon dev, c'est pas un expert en back-end, tu vois. Pour moi, c'est un dev qui est capable de comprendre des problématiques de code, mais qu'importe le contexte. Que ce soit du C, du C++, du Terraform, de l'infra, au final c'est de la logique, c'est de la logique mathématique comme n'importe quel code. Et en soi, pour moi, c'est sûr qu'un bon développeur va pas être bon dans tous les langages, dans tous les contextes, tu vois, mais il est capable d'avoir une certaine approche, il a compris l'approche de manière généraliste qu'il faut pour prendre en main un framework, un langage, etc. Et au final, in fine, peu importe ce que tu lui donnes, il sait se focus sur l'essentiel et il sait comment il va devoir opérer pour prendre en main son truc. Et pour moi, je n'y crois pas qu'un bon dev web, c'est un dev qui sait faire que du front.
Mais donc ça veut dire que...
Mais de manière experte.
L'output est intéressant parce que est-ce qu'on peut dire qu'un développeur full stack, c'est quelqu'un qui sait bien faire chaque élément, parce que savoir faire du front, du back, de l'infra, du système, tout ce que tu veux, peut-être que tu peux le faire fonctionner, mais est-ce que tu le fais bien fonctionner? Est-ce qu'on considère qu'un développeur full stack, c'est un développeur qui fait bien fonctionner les choses? Ou c'est quelqu'un qui sait faire juste marcher les choses? C'est là où le curseur il est intéressant. Juste rebondir sur soit Khalid, soit Thomas, qui veut reprendre...
Le développeur full stack, en fait, il existe. Parce que le terme existe. Ouais. Donc l'idée existe. C'est comme les licornes. Dans le monde réel, ça n'existe pas, les licornes. Mais pourtant, on sait que ça existe, on en parle, on sait à quoi ça ressemble, on sait l'expliquer, on sait le désigner. Donc le développeur full stack, c'est un terme qui existe. Il existe sur le marché, il existe sur LinkedIn, il existe... Et en vrai, il existe parce que... de manière générique, il n'existe pas. Mais en vrai, pour une stack donnée dans une entreprise ou un projet donné, tu peux dire, est-ce qu'une personne est à l'aise sur la totalité de la stack? Et surtout qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, les années... Enfin, depuis des années, il y a des outils qui permettent de faciliter le travail des développeurs, que ce soit pour déployer, que ce soit les frameworks en eux-mêmes, que ce soit, que ce soit le cloud, etc., font qu'il est plus facile aujourd'hui qu'il y a, je sais pas, 10 ou 20 ans, de dire, moi tout seul, je vais déployer une application web, je prends le cas du web parce que c'est ce qui se fait le plus aujourd'hui, avec du back-end, du front-end, j'ai le framework qui m'aide à écrire du code, qui m'aide à me concentrer juste sur le métier quasiment, un peu de détails techniques mais pas trop, j'ai la base de données, elle est managée pour moi, le CSS, j'ai pris un framework qui m'a aidé, qui gère quasiment le style pour moi et je trouve que ça suffit, ou alors je fais un peu de CSS parce que voilà, je suis bon en CSS, peu importe, mais c'est plus facile aujourd'hui de toucher à tous les étages de la stack qu'il y a 20 ans, par exemple, où il n'y avait pas le choix, il fallait louer soi-même la machine, un VPS, par exemple, et tout installer soi-même, la base de données, la configurer soi-même, c'est un putain de métier, être DBA, tu vois. Un travailleur DBA, c'est un putain de métier. Pareil pour l'administration système, pareil, il n'y a pas Terraform, il n'y avait pas la CI aussi facile pour déployer en un clic, etc. Il y avait Jenkins, mais enfin, Jenkins, voilà quoi, c'est la guerre, c'est un peu la croix et la bannière, Jenkins, etc. Et pareil pour le front, pareil pour le back-end, etc. Le back-end, ça va, ça fait quand même un certain temps qu'on a des frameworks qui sont quand même potables. L'idée du framework web, ça existe depuis quand même pas mal de temps, mais surtout back-end. Le front, pas trop, etc. Donc aujourd'hui, oui, ça existe parce que sur une stack donnée, surtout si la stack est facilitée grâce à des cloud providers ou à des outils ou des frameworks comme ça, c'est plus facile d'être full stack, d'être capable d'intervenir sur tous les étages de la stack.
Ok.
Ça, c'est plus facile. Donc, le développeur full stack, il existe. Pour moi, ça existe.
J'ajouterais un truc. Pour moi, l'idéologie de développeur full stack, elle est aussi importante. Pour que, imaginons, je prends le cas d'un archi 3 tiers avec un front et un back. Ton dev back, s'il travaille uniquement sur le back, par exemple, imaginons, on a juste un dev back qui travaille sur le back, il n'a pas la cohérence du front. Enfin, tu vois, il n'a pas la connaissance du front. Du coup, lui, il va faire son truc de son côté, avec son idéologie, mais il va pas avoir le regard de recul sur le projet. Ça se trouve, son bac qu'il va faire, il va produire, il va être indéployable sur le cloud, par exemple. Tu vois, s'il a pas au moins un petit peu connaissance de la stack entière, oui, il va pas avoir le recul d'être capable de produire quelque chose de compatible pour tous.
Donc, ce que tu dis, c'est que, enfin, tu me corriges, hein, qu'un bon développeur, en fait, c'est un développeur full stack. Ou un développeur devrait être un développeur full stack.
Pour moi, ouais. C'est pas un développeur qui a une seule expertise.
On n'est même pas à se poser la question, est-ce qu'un développeur full stack, ça existe ? C'est un développeur doit être full stack. Genre, Khalid, je te vois bouger la tête.
Je suis pas d'accord.
C'est intéressant, mais c'est une question que je pose. Ouais, c'est une question que je lève.
Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Un développeur full stack est un bon développeur. C'est bien d'avoir des gens comme ça dans l'équipe. Mais selon la technicalité, enfin le challenge technique dans un projet, tu peux avoir besoin d'expertise. Un gars qui ne sait que, pas un DBA par exemple. Ah, il se trouve qu'il faut que la base de données elle cartonne et on l'héberge chez nous pour des raisons X ou Y. La base de données, ah bah j'ai besoin d'un vrai expert, je sais pas, MySQL, Postgre ou Mongo ou quoi que ce soit.
Il s'en fout que tes boutons soient bleus dans ton front.
Exactement. Lui ça l'intéresse pas. Par contre, il sait optimiser tes queries, ton query plan, etc. Il sait optimiser le stockage, il sait de dupliquer la donnée s'il y a besoin, la charder correctement, etc. Ou alors c'est un maître en système distribué parce que votre application système distribué qui a un problème assez complexe. Donc l'expertise technique pointue, c'est utile. Ou c'est un dev qui sait la performance parce que, on a besoin, par exemple, typiquement le cas du trading haute fréquence, typiquement là, il faut connaître limite le nombre de registres dans ton CPU, la taille de chaque niveau de cache, etc. Il faut savoir parler à ta mémoire, à ton CPU, comme tu parlerais à ton chat, quoi, tu vois. Faut savoir tu sais le caresser, tu sais le brosser dans le sens du poil, tu vois.
Après, je trouve que c'est un peu fort de parler de full stack, entre parenthèses, pour être bon, parce que moi, je prends par exemple tous les bons développeurs back-end que j'ai croisés. C'est pas parce qu'ils font pas de front que les gars sont pas capables d'ouvrir un debug tool sur Chrome. Enfin, les gars, ils ont quand même une bonne vision, tu vois, sur ce qu'ils se font. Enfin, quand t'es intéressé par ton produit, tu sais ce que l'équipe front, comment elle travaille. Encore plus si les deux équipes, tu prends Node.js avec React, on écrit tous du JavaScript. Enfin, je veux dire, globalement, on parle la même langue. Enfin, tu vois, on n'est pas stupide non plus, tu vois, en tant que back-end. En fait, tu comprends quand même plutôt bien. Enfin, si tu comprends pas vraiment ce qui se passe côté front, surtout quand tu travailles dans du web, c'est que t'es un peu junior, quoi. Parce que quand t'as pas mal d'expérience, tu t'en sors. Même si t'es spécialiste back-end, t'es pas tout un navigateur, t'es pas perdu, quoi, normalement, quoi. Donc c'est
pour ça que je suis pas trop à l'aise avec ce terme full stack, parce que surtout on mentionne le web, tu vois, en full stack, mais genre un très bon dev, tu vois, back-end sur une lib, peu importe, open source, bien sûr qu'il est bon, il est complètement bon ailleurs, tu vois, mais parce qu'il a l'XP, tu vois, il a fait plusieurs choses aussi par le passé, tout ça. Mais du coup, je rajouterais un mot à ma phrase. Pour moi, c'est un bon dev plutôt produit, on va dire, a besoin de connaître l'ensemble, tu vois, mais bien sûr qu'il faut de l'expertise à des moments pour résoudre des problèmes, des problématiques, mais très précises, du coup.
D'accord, mais ça,
je pense aujourd'hui, tu vois, aussi, tu vois, parce que je reprends un peu le côté débat qu'il y a sur LinkedIn, etc. Par exemple, dans l'écosystème JavaScript, on en parlait, je rejoins un peu, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui aident énormément, mais qui vont rendre... Tout va devenir un peu hybride, c'est-à-dire que les développeurs aujourd'hui, enfin beaucoup de juniors qui rentrent, ils vont faire et du front et du back dans des outils comme Next.js, un tas de choses. Et d'ailleurs, des fois, ils savent même plus faire du templating, ils savent plus, enfin des notions que pour nous, c'est, enfin des fois, quand tu as fait du back-end, tu te dis c'est des fondamentaux. Et des fois, ils ont peut-être Ils ont même, des fois même plus la limite entre front et back. Des fois, ça devient flou aussi, des fois, pour eux. Et donc, je pense que des fois, quand tu es sur LinkedIn, beaucoup, les débats s'orientent un peu sur ça, tu vois. Avec le côté full stack, qui est, on a des développeurs qui rentrent sur le marché. Sauf que maintenant, les outils, elles effacent un peu les bordures. Et des fois, ça devient un peu compliqué quand tu tombes dans un autre contexte. Et du coup, t'as aussi le débat de... t'as des entreprises qui montent des équipes de full stack, mais qui a un peu l'attente que tu vas avoir des expertises qui vont se monter. Et des fois, si le contexte il est un peu critique, c'est pas ce qui va se passer, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, c'est révélateur d'un manque quelque part d'expertise ou de connaissance de son domaine. C'est-à-dire, quand tu dis tout à l'heure, aujourd'hui, t'as des développeurs qui sont plus capables de savoir qu'est-ce que du templating et quand est-ce que je vais l'utiliser. Parce que du templating, dans des situations, ça peut être totalement une solution valable. Et un bon choix dans certains cas. Mais ça me ramène à une question, et c'est celle que j'allais vous poser juste derrière, là. C'est quoi un bon développeur? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut considérer hors expertise? On s'en fiche qu'il fasse de la DBA, que ce soit un mec qui fait que du bas niveau, du haut niveau, peu importe le langage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend d'un bon développeur? Demain, tu fais passer un entretien, d'accord? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce qui va être, genre, un bloquant, ok, genre c'est pas possible, c'est no way, pas possible. Donc voilà.
C'est opinionated de ouf.
Ouais, non, mais c'est.
Ça veut dire.
Non, mais moi, c'est. Ouais, mais c'est.
Je veux ton opinion. Ça va être un développeur qui va correspondre à mes standards à moi.
Ouais, mais c'est intéressant, mais c'est ça. Coup, c'est clairement la question aujourd'hui, voilà. T'as donné un peu ton opinion avant, mais voilà, savoir aujourd'hui, voilà, c'est quoi un bon développeur pour toi? C'est un mec qui est genre soucieux. Qui a une très bonne connaissance du business dans lequel il va travailler, qui a une très bonne connaissance des bordures.
Moi, qui ai le côté open source,
des composants avec lesquels il va
souvent interagir. Les développeurs que je prends, et ça va probablement avec les défauts qui va avec, mais souvent les gars que je prends, c'est les gars avec qui je travaille déjà en open source, parce que je connais leur niveau technique, je les connais souvent personnellement, je sais que c'est des gens résilients. Donc souvent, en plus souvent humainement, c'est des gens, enfin je trouve en open source, tu rencontres des gens comme toi Mathieu, hein, qui s'est rencontré en open source, tu vois, donc c'est cool. Okay. Souvent c'est humainement, les gens sont incroyables. C'est souvent, en plus il y a le côté communication aussi, tu vois, je suis dans des assez gros projets, donc en fait faut être quand même assez clair en termes de communication et tout. Donc souvent, moi quand j'ai le choix de recruter, forcément c'est ces profils-là que je prends en priorité, mais après... Qu'est-ce qu'un bon développeur? C'est tellement une question générique. Même moi, tu vois, j'ai du mal, tu vois, à savoir qu'est-ce que je te répondrais exactement, quoi. C'est tellement compliqué.
T'as un peu répondu à la question, c'est-à-dire, pour toi, la dimension quand même... on parle même pas de tech, on parle même pas de skills, on parle de l'humain dans une organisation. Pour toi, ouais. L'humain, c'est quelque chose de très important, si j'ai bien compris ta réponse.
Ouais,
c'est
oui,
que je veux te dire, voilà, moi, je bosse avec des mecs sympathiques, qui sont résilients, qui ont peut-être une capacité de synthèse, une capacité de compréhension.
Après, je suis un peu maso, moi. J'aime bien les gars qui font... J'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'aime bien les mecs qui me challenge sur le plan technique. Par exemple, il connaît Antoine Coulon, tu vois. Il est à fond dans tout ce qui est fonctionnel programming, etc. Et moi, originalement, alors c'est pas que j'aime pas ça ou quoi que ce soit, tu vois, mais je ne suis pas forcément dedans. Mais tu vois, je m'intéresse beaucoup, tu vois, à tout ça aussi, tu vois. Et donc, il y a pas mal de choses. Genre, je fais pas mal de trucs fonctionnels, justement parce que, tu vois, j'ai vu Antoine ou Tony qu'on codait des choses. Et donc, j'apprends sur le tas, etc. Donc, j'aime beaucoup, tu vois, ce côté, ce rapport challenge en tant que lead, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de tous les leads. Des fois, il y a des leads qui aiment bien avoir l'ascendant total, tu vois. Mais après, ouais, c'est humain, quoi. Tu regardes humainement. Okay. S'il y a un feed, j'aime bien les côtés. Après, tu vois, ça dépend de l'équipe. J'essaye de regarder mon équipe, de me dire, OK, j'ai des gars là qui sont plutôt forts techniquement, mais on est peut-être un peu en reste côté métier. Ou peut-être j'ai des gars qui sont pas très communicants et donc ça handicap, et donc j'aimerais bien peut-être un profil qui soit meilleur communicant. Et du coup, tu vois, parce que dans une équipe, tu vois, personne n'est équivalent, tu vois, donc t'essayes d'équilibrer, quoi.
Donc tu vois ton organisation, tu la vois peut-être de manière organique, c'est peut-être ça. Tu vas peut-être évaluer la personne et aussi l'organisation dans son ensemble, c'est peut-être la vision que tu as, enfin c'est ce que j'ai compris. Khalid, est-ce qu'on pourrait avoir ta vision sur aujourd'hui, c'est quoi un bon développeur pour toi, et où est-ce que tu situerais dans une organisation? Est-ce que tu vois les choses un peu comme Thomas, ou en fait ça va être un bon développeur parce que là j'ai besoin de ça et il va répondre à un besoin de l'organisation, ou intrinsèquement il faut qu'il ait ces compétences-là et ça c'est obligatoire?
Ça peut être les deux. J'ai déjà recruté une personne, par exemple, parce que j'avais besoin de ses compétences. Voilà, en fait, je m'en rappelle, c'est quelqu'un que j'ai embauché sur un projet JavaScript. Personne ne connaissait quasiment pas JavaScript. Mais vraiment, en plus. Et techniquement, c'était pas un... en vrai, c'était pas un dev forcément très bon, tu vois. Mais il avait d'autres qualités dont j'avais besoin. C'était pas mal en infra, etc. Et tout. Et je trouve que ça complétait mon équipe. Donc voilà, moi je l'ai formé sur JavaScript, etc. pour qu'il ait un niveau correct, pour qu'il soit opérationnel. Et j'ai pas attendu, je m'attendais pas à ce qu'il devienne, en un an, qu'il passe de « je sais pas trop coder en JavaScript » à « je suis devenu un génie ». Non, je m'attendais juste, je l'ai rendu opérationnel pour qu'il puisse participer au travail. Mais par contre, ce qu'il nous a apporté en sérénité sur l'infra, sur voilà, ses idées, sur sa rigueur, etc. c'était génial, par exemple. Donc d'accord. Ça dépend. Mais ça peut aussi être, j'ai besoin de... quelqu'un qui a certains fondamentaux qui m'intéressent dans mon domaine, tu vois. Ça peut être par exemple, si tu as une équipe branchée Functional Programming, ah bah je vais prendre quelqu'un qui est branché sur Functional Programming, il faut qu'il soit branché là-dessus, ça, c'est un critère par exemple. Ou si comme je rejoins
Thomas.
Thomas. merci pour la...
T'inquiète.
voilà, il fait de l'open source, il a besoin de personnes qui peuvent potentiellement contribuer à ses projets open source, etc. Donc voilà, le travail qu'on demande à dans de l'open source, c'est pas la même chose que dans une organisation en interne où tu fais un projet en interne, soit pour des utilisateurs finaux, des utilisateurs internes, etc., ou des partenaires, etc. C'est pas pareil. On n'attend pas la même chose. Donc, là, entre guillemets, tu peux recruter sur qualité intrinsèque, ou comme... mais les qualités, elles dépendent toujours donc, du domaine, plus ou moins. Il y a toujours un rapport. Par exemple, je finis juste un exemple. Tu as besoin d'un programmeur... J'aime bien prendre l'exemple du jeu vidéo, parce que c'est très différent de ce qu'on fait le web de tous les jours. C'est très différent.
T'as un background dans le jeu vidéo ? Enfin, t'as travaillé dans un environnement de jeu vidéo ou pas ?
Alors, je travaillais dans une boîte qui faisait du jeu vidéo.
Ok.
Et donc, j'ai côtoyé beaucoup de développeurs de jeux vidéo, mais moi...
Tu peux me donner le nom de la boîte ?
Oui, c'était Ubisoft.
Ok, ça marche.
Donc, très grosse boîte, etc. un des leaders mondiaux, enfin bref, peu importe. Donc, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient du jeu vidéo, puis je m'intéresse, c'est un domaine auquel je m'intéresse depuis très longtemps. En tant que joueur, mais aussi en tant que... comment ça marche, comment on fait un jeu, etc. dans son ensemble. Et par exemple, tu peux avoir besoin de... Moi, ce que j'ai besoin, c'est un mec qui est très bon en maths ou en statistiques. Ou en maths vectoriel, enfin, dans l'espace 3D, etc.
Est-ce qu'on peut dire que pour
toi... un matheux, par exemple.
Voilà. Est-ce que pour toi,
peu importe qui sache coder ou pas, limite, hein,
c'est un développeur qui va correspondre à ton besoin sur le moment. En fait, qui a un slot, tu as un besoin, et ça va être celui qui va répondre au besoin. Donc, on ne peut pas se dire, OK, le bon développeur, il a ses skills.
Là, en fait, les gens essayent peut-être de trouver trop une description unique pour tout le monde, mais en fait, ça ne marchera jamais.
OK, mais c'est intéressant.
Pour moi, il n'y a pas vraiment de critères. Je dirais un seul qui est important pour moi, à mes yeux, c'est la communication. Dans tous les cas.
Ok, orthogonaux à tout ce que...
C'est ça, en fait, qui est capable d'aller poser des questions, mais aussi d'entendre. Je vois, c'est très important sur les projets open source. Tu ne peux pas participer à l'open source de ton côté, tu vois. T'es obligé de... Tu soumets une PR, t'es obligé de parler, de soumettre, de te faire challenger, etc. Et l'inverse aussi est vrai. Et pour moi, c'est ça le plus important parmi les composantes des développeurs. Et après, un bon développeur, ouais, ça peut être expert technique sur un sujet, expert de manière généraliste. Enfin, tu vois, genre, peu importe, j'ai envie de dire.
Tu partages un peu la vision de
exactement, de Khalid sur le coup. C'est ça.
J'aimerais qu'on fasse un jeu. Là, on est tous des leads, d'accord ? Enfin, vous trois, vous êtes des leads, d'accord ? Et j'aimerais vous poser une question. Et c'est une question, je pense, que tous les tech leads ou tous les leads ont dû être confrontés à un moment donné à une situation ou même des CTO. C'est pour vous le plus important, c'est quoi? C'est la qualité du code ou la cohésion dans l'équipe? C'est-à-dire, demain, il faut faire des choix techniques. Vous êtes des leads, vous avez la science, d'accord? Et vous avez la capacité d'imposer un choix finalement. C'est vous les décisionnaires finaux. C'est quoi le plus important? C'est réduire la qualité du code parce que l'équipe n'a pas compris et n'ont pas compris selon vous et ils font un choix technique qui pour vous semble être pas forcément la bonne direction à prendre, d'accord ? Que ce soit d'un point de vue métier ou techniquement pur. Quel choix vous allez privilégier ? Est-ce que vous allez privilégier la cohésion de l'équipe, l'entente dans l'équipe ? Ou vous allez privilégier la qualité du code et vous dire, tant pis, s'ils ne sont pas d'accord, c'est moi qui décide, c'est le bon choix. Même si on part du principe que vous avez raison. Là, on n'est pas en train de dire que hypothétiquement, vous avez tort ou raison. Le choix technique que vous voulez prendre, c'est le meilleur. Ok, c'est un fait, c'est établi.
D'accord.
D'accord ? Donc maintenant, voilà, j'aimerais avoir votre point de vue et vous donner un peu votre...
Effectivement, je pense que ça dépend de l'équipe, mais parce qu'on peut être dans une dans une sorte de dialogue, même s'il y a des fois... Enfin, moi, ça m'arrive des fois de dire il n'y a plus de dialogue.
Mais, c'est intéressant.
Moi, avec mon équipe, je n'ai jamais eu trop de problèmes. Mais nous, on a un niveau... on est assez strict, tu vois. Enfin, j'attends des gens très rigoureux, très professionnels. Donc, en fait, j'ai quand même relativement... Avec mes gars, en tout cas, j'ai très peu de soucis. Mais on est toujours dans un dialogue. Et généralement, si j'ai un développeur qui me dit « Moi, je pense vraiment qu'il faut faire ça. » Après, s'il est junior, je vais lui dire « Écoute... » Et que t'as le reste des seniors qui lui disent « Écoute, calme-toi, tu sais pas ce que tu dis, quoi. » Enfin, surtout quand t'es dans une équipe de gars qui sont calés, tu vois, même les juniors, ils ont tendance à se dire « Ok, bon, peut-être. » Mais si c'est un senior qui me dit « Non, moi, vraiment, je pense, je vais prendre la responsabilité là-dessus, je vais lui dire « Ok. »
Et si tu penses le contraire ? Si, enfin, c'est pas tu penses, c'est que tu sais. Alors, pour eux, j'insiste sur la règle du jeu qui est Thomas, tu as raison. Techniquement, c'est prouvé. Mathématiquement, ok, c'est le meilleur choix. Businessment parlant, c'est le meilleur. Businessment, c'est pas comme terme, mais je l'utilise quand même. Businessment parlant, tu as raison, d'accord, d'un point de vue business. Mais le senior qui te dit, ouais, mais non, ils sont même peut-être 2, 3, 4, 5, 8, je sais pas, te disent, bah, finalement, nous, on n'est pas ok, on va aller dans cette direction-là. Est-ce que tu.
Ça m'est jamais arrivé.
Oui, mais ça arrive dans plein d'organisations, parce que toi, tu appliques un filtre, mais ça arrive dans plein d'organisations. Tu vas privilégier quoi ? La qualité de ton produit, on parlait de qualité tout à l'heure, genre ton produit ou ta technique, peu importe le choix, ou tu vas privilégier la cohésion dans ton équipe, malgré que tu sais que c'est un choix qui n'est pas...
Je sais pas trop, effectivement. Moi, je serais plutôt... C'est compliqué comme situation, quoi, parce que...
Sinon, je te poserais pas la question.
Moi, j'aurais quand même tendance à être. Si vraiment. Mais bon, comme dit, ça paraît quand même une situation assez extrême. Tu vois,
ça arrive, hein. C'est des situations qui arrivent.
Moi, je pense que c'est une question de. Si les mecs, ils veulent choisir, ils sont sur leur truc. Moi, c'est une question de responsabilité. Prenez la responsabilité. Et moi, je suis du genre. Si ça échoue derrière. On vous avait prévenu, vous avez échoué une deuxième fois. Il y a un moment donné, moi je me sépare de développeurs. Je leur dis, écoutez, là c'est terminé. Il y a un certain degré où je vais, moi en tant que lead, je vais considérer que c'est quasiment une faute professionnelle. Il y a un moment donné,
c'est fort.
Quand t'as l'expérience, etc., etc., après tu peux être. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai des gars qui me disent, moi je pense ça, je fais ok, je te trust.
Et prends ta responsabilité, quoi.
Et puis les gars prennent leur responsabilité. Si ça a échoué, bon, ça a échoué, c'est pas grave. Après, on est une équipe et on gère le truc, tu vois. Mais après, quand ça a échoué, les gars, ils te laissent gérer les problèmes. C'est à ce moment-là, généralement, que moi, je me sépare de dev. Après, ça dépend, comme dit, si, ça dépend de ta boîte. Si ta boîte, ta direction, tes leads, et que t'as pas les cartes en main pour jouer, je suis pas lead. Je sers à rien, tu vois, parce qu'il y a un peu ce côté là aussi où des fois c'est dialogue, puis si n'importe, enfin t'as un gars, t'as un stagiaire qui arrive et qui va te dire quelque chose, faut l'écouter, quoi. J'entends dire, à un moment donné faut remettre aussi un peu les choses
à plat.
Mais encore une fois, généralement ça m'arrive peu, quoi. On a des dialogues, ça se passe plutôt bien.
Ça arrive dans des boîtes, il y a des situations où tu fais de l'advisory, tu fais du conseil, et à un moment donné ça peut arriver. Khalid, est-ce que on pourrait avoir ton point de vue par rapport à ça ? Je réitère la question quand même, parce que j'aimerais la reposer.
Vas-y.
Pour redonner du contexte. C'est aujourd'hui, dans une équipe, qu'est-ce que tu vas privilégier ? Si jamais tu as un choix à faire technique et tu sais que cette technique-là, ce choix-là sert la cause du business et du produit en tant que tel, tu sais que tu as raison, mais que l'équipe veut prendre une direction différente et potentiellement on va desservir, non même pas potentiellement, certainement on va desservir le produit. Ah. Qu'est-ce que tu ferais comme choix si tu es le lead? Tu vas privilégier ton choix, tu vas imposer ton choix, ou tu vas privilégier la cohésion d'équipe, ou comment tu t'y prendrais?
Alors, tu viens juste de rajouter un petit truc qu'il n'y avait pas dans la question initiale, c'était que le choix de l'équipe allait desservir de manière factuelle.
Oui, bon, voilà. Voilà.
Tout à l'heure, tu ne l'avais pas dit. Tout à l'heure, tu avais dit que ton choix, c'était le bon, c'était le meilleur, mais tu n'avais pas expliqué que le choix de l'équipe, dans quelle mesure il n'était pas aussi bon. Là, tu viens de rajouter. Mais justement, ça me facilite, ça facilite la réponse.
Okay.
Pour moi, ça facilite la réponse. Parce que dans ces cas-là, tu vois, je vais prendre les deux cas. Si le choix de l'équipe, ce n'est pas le meilleur, mais que ça fait le taf, à la limite, tu les laisses. Tu peux les laisser gérer. Tu vois, si toi, tu anticipes, tu dis, ok, bah, clairement, j'ai pris le raccourci, ça va plus vite, etc. Mais si l'équipe, elle n'est pas à l'aise avec ce raccourci, je sais pas, pour des raisons techniques ou, tu vois, etc. Mais par contre, le chemin qui est un peu plus long, bah, tu sens qu'elles sont capables de le prendre en main et de le gérer. Tu dis, bah, à la limite, pourquoi pas, faites-vous vos armes là-dessus, etc. Ça dépend de la criticité. Si on t'a donné une deadline qui est super short, parce que voilà, tu sais que tu as besoin de passer par le chemin le plus rapide pour tenir la deadline, sinon c'est mort. Peut-être que tu essayes de trouver un compromis, je ne sais pas. Mais si par contre, c'est un bon chemin qui t'emmène dans la bonne direction et un autre qui te fait reculer, ou qui met le projet en péril, car, par exemple, en termes de, je sais pas, de maintenabilité ou d'objectif business, ou, etc., mais vraiment en péril, quoi, ça va à contresens. C'est de ta pour moi, c'est de ma responsabilité de ne surtout pas prendre ce choix-là. Parce que, je vais dire quelque chose, en fait, les développeurs, moi, tel que je veux, c'est ma vision de l'entreprise, le projet, en tout cas, pardon, j'arrête de toucher mon micro. L'entreprise, en fait, elle outrepasse les individus qui la composent. Même si la cohésion de l'équipe, moi, je viens du monde comme tu as dit, tu venais du monde de la cuisine, moi, je viens du monde du sport, avant. Et donc, la cohésion dans une équipe, surtout dans un sport collectif, quoi, forcément, une équipe dans un sport individuel n'existe pas, mais dans un sport collectif, c'est archi important, fondamental, la cohésion. Donc, bien sûr, briser la cohésion, c'est quelque chose de... C'est risqué dans une équipe. C'est très risqué. Mais, je pars du principe que les gens sont que de passage dans une entreprise. Même si, en CDI, pour moi, un CDI, ça veut dire un CDI jusqu'à ce qu'il ait trouvé autre chose de mieux, ou qu'il déménage, ou que voilà, il change de métier, ou il fait sa vie, ou il a une promo qui, tu vois, il passe commercial, ou j'en sais rien, tu vois, ou chef de projet. Donc, alors que, par exemple, si on parle de projet logiciel, donc de code, etc., si on sait que c'est le cœur du métier, c'est quelque chose qui va... Dans 10 ans, la code base, elle sera toujours là, sous une forme ou sous une autre. C'est plus important pour moi de protéger cet asset que de protéger la cohésion de l'équipe. Par contre, j'essaierai de faire en sorte de démontrer, comme tu dis, que mathématiquement, c'est le bon choix et que le choix que l'équipe propose, il est mauvais. Et je serai obligé de dire, voilà, je fais de la pédagogie pour dire, venez avec moi, voilà pourquoi ce choix, il n'est pas bon, il est même dangereux, ou il est risqué, ou il est trop long, il est trop compliqué, par exemple. Et essayer de leur faire comprendre que, voilà, comme tu dis, si c'est mathématiquement, si en vrai, quand on a toutes les pièces du puzzle pour comprendre, normalement, au bout d'un moment, on dit, ah non, effectivement, c'est la bonne solution, en vrai. Ok, je comprends pourquoi j'avais tort, et je comprends pourquoi ce choix est le bon. Pas que j'ai raison, que ce choix est le bon. Voilà. Donc, parce que moi, je m'en fous. Parce que moi-même, je fais partie des gens de passage dans la société. Moi-même, je suis que de passage. Je suis là 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Et après, je pars, mais il faut que le projet il continue à rouler.
D'accord, ok. Donc, si je récapitule, c'est... Je privilégie l'équipe, mais pas au péril de l'entreprise.
Voilà.
C'est ça.
Exactement. J'assure la cohésion de l'équipe, parce que c'est en tout cas, en tant que manager, etc., en tant que lead, c'est un de mes rôles, clairement, c'est de gérer une équipe, mais il ne faut pas oublier que moi, on m'a donné une responsabilité qui vient de plus haut dans la société, c'est de, voilà, je te donne, entre guillemets, de l'argent, du budget, pour réaliser des projets, je veux que le projet marche. Ouais, c'est ta responsabilité professionnelle. C'est clair. À un moment donné, ce n'est pas de dire...
C'est ce que disait Thomas tout à l'heure.
C'est pas de...
Tu as 10 ans de plus, il parle bien.
C'est pas de se dire, entre guillemets, je vais faire exprès de prendre des termes un peu rabaissants, etc. C'est pas de... C'est pas un bac à sable. C'est pas la cour d'école. C'est pas un jeu, c'est pas la maison de quartier ou c'est pas une partie en ligne de Fortnite. Ah, allez, on s'éclate, c'est pas grave. Ce soir, on cherche pas les skills ou les scores. Ce soir, on fait n'importe quoi, on s'entretue, on rigole. Non, c'est pas ça.
Il y a de l'enjeu.
Il y a un enjeu.
Si ça devient vital pour l'entreprise, l'entreprise passe devant l'équipe.
Bien sûr.
Mais par contre, si c'est pas vital pour l'entreprise, tu privilégies l'équipe à ton propre, à ta propre personne.
Parce
finalement.
Que ça peut servir la cause de l'entreprise de laisser les gens apprendre. Et de laisser les gens progresser.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, par contre. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Thomas quand il a dit prenez vos responsabilités.
Oui.
À un moment donné, si tu considères que c'est le cheminement pour que ton équipe puisse apprendre et finalement apprendre finalement de leur erreur,
bien sûr.
Tu vas les laisser prendre ce chemin-là, mais en prenant leurs responsabilités, à condition que ça ne mette pas en péril
bien sûr.
L'état de santé de l'entreprise.
Bien sûr.
Okay.
Bien sûr.
Gabriel, je pourrais avoir ton point de vue par rapport à ça ?
Ouais. Alors, je rajoutais un truc. Si on part de ce postulat, ça veut dire que tu as échoué à expliquer ton choix à ton équipe, déjà. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à les convaincre pourquoi ta solution est meilleure, tu vois. personnellement, ça m'est jamais arrivé ce cas-là. On a toujours réussi à trouver un terrain d'entente. Et je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des, vraiment d'être versus des personnes, tu vois. Et jamais, jamais que le combat se finisse, tu vois. Ça arrive souvent, tu vois, qu'on se batte.
Mais pourtant, on a terminé en combat de MMA.
On a toujours trouvé, même des fois un jour après, tu vois, une solution à notre problème, tous les deux, qui nous a convaincus. Mais ouais, je dirais, bah, c'est important quand même de garder la cohésion, parce que si tu perds ta cohésion d'équipe, ton produit en payera le prix après. Tu sais, tu peux avoir des gens du coup qui vont être moins motivés, du coup qui vont moins bien travailler qu'avant, tu vois, moins s'investir et tout, moins se responsabiliser aussi. Mais tout autant, je rejoins quand même Khalid, ce qui dit, toi c'est pour ta boîte que tu fais ça, c'est pour la boîte que tu fais ça, c'est la responsabilité que t'endosses. À un moment, tu peux pas te permettre de déconner. Si t'es vraiment convaincu, théoriquement, t'es censé être celui qui lead. Et si vraiment les gens sont pas en adéquation, que ça te paraît aberrant, oui, je t'assure que je privilégierai l'entreprise, quitte à te planter, tu vois. Mais pour moi, c'est important de garder l'humain et de pas avoir juste cet argument d'autorité, tu vois. C'est de se mettre, se décider et se dire, bah voilà, à un moment, sinon, on n'arrive pas, on perd du temps.
Si ton patron s'appelle Elon Musk, et la tu vois, le mec qui est pas d'accord dans l'équipe, tu dis, oh, direct.
Ouais, bah. Ouais. Ben, on arrive au bout de ce podcast. C'est passé très oh, rapidement. On arrive, ouais, c'est passé très vite.
Dit,
c'est passé très vite. J'ai une question à vous poser à chacun. On va commencer par par Thomas. Qui aimerais-tu voir ou écouter dans le prochain podcast? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir ou écouter dans le prochain podcast? Ça peut être personne, hein. C'est une réponse acceptable.
Tu sais, j'allais dire, en plus, t'as déjà fait les gars que je kiffe. Donc, en fait, en plus, tu me complexifies la tâche. Non, c'est vrai que là, j'ai pas.
Ou un sujet.
J'ai pas grand monde qui me vient.
Ok, ça marche. C'est acceptable, ça tombe.
En fait, les gars qui me viennent en tête instantanément, forcément, c'est les gars avec qui je pose
c'est
beaucoup
les cadres de
et puis tu les as du coup t'as déjà fait donc
Khalid.
Alors j'ai question piège là, tu me prends je parle plus près du micro, question piège, mais ça pourrait être intéressant de ramener quelqu'un spécialisé dans l'intelligence artificielle. C'est carrément un sujet, sujet du moment.
Ça peut être intéressant, très intéressant.
Avec tous les LLM et ce qu'on entend, etc., les génératives AI et tous ces trucs là
moi j'ai un nom comme ça là. Je ne sais pas si vous connaissez Kevin Piacentini, qui développe pas mal d'outils autour de ça et qui a une très belle expertise et qui a un point de vue hyper intéressant d'ailleurs.
Ça peut être intéressant là-dessus.
Si tu nous entends, tu nous vois, tu es la bienvenue ici. Je l'ai déjà invité, mais il est un peu loin. Hein. Mais on va travailler. Il n'est pas à côté. Mais...
c'est pas un nom en particulier, mais c'est un sujet professionnel. C'est un sujet intéressant, moi, je pense. Enfin, moi, qui m'intéresse en tout cas.
Ouais. Après, ok, c'est intéressant. Gab ?
Ouais, alors moi je connais pas grand monde. en vrai, un petit sujet intéressant serait peut-être avoir un CEO d'une boîte tech, peu importe, j'ai vraiment pas de nom en tête, mais du coup de voir, le sujet serait de voir un peu ce qui est essentiel, lui, dans les produits qu'il livre, et comment ça rejoint la tech, du coup.
D'accord.
J'ai pas la manière, tu vois, mais je pense à...
Un founder.
C'est ça, ouais.
Un founder, ok.
Peut-être si j'avais un nom, tu vois, peut-être Vladimir Deterkem. C'est un des gars qui m'a recommandé quand je suis arrivé dans le working group Node.js de sécurité. Okay. Et je me suis aussi déplacé. On avait fait ma première conférence internationale à Tel Aviv. M'étais déplacé avec lui. Donc c'est un gars aussi très intéressant.
Je pense à un nom, je sais pas pourquoi, à quelqu'un... Il est l'organisateur un des co-organisateurs du meetup DDD, Paris, je crois. Jérémy Grodzicki. Je pense que ça t'intéresserait. Il a 10 ans de plus que moi encore, au moins.
Ok, ça peut être hyper intéressant.
C'est un grand seigneur qui a...
Un grand seigneur.
On
a vu des seigneurs dans Hanzone.
Non, je sais pas. Ça peut être quelqu'un de très intéressant. Parce que voilà, il a une approche très métier, justement, tout en étant très bon techniquement.
Ok, ça pourrait être hyper intéressant.
Ouais.
Thomas,
ça me vient au fur et à mesure. LinkedIn, j'ai pas son nom, mais Pierre
Krilansky.
Ouais,
j'espère que j'ai bien dit son nom. Mais ça pourrait être intéressant. Ok.
Mais ouais, j'aime. Enfin, en tout cas, tu vois, dans le côté l'inarchie, etc. En termes de pratique, j'aime beaucoup son approche, sa façon, sa pédagogie, etc. Et aussi. Je trouve que c'est quelqu'un de très équilibré aussi. Tu vois, il est pas dans des extrêmes aussi. Il est très posé. Donc j'apprécie bien, tu vois, le travail qu'il fait.
J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi son approche. Ok. Et pour finir, où est-ce qu'on pourrait vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous trouver? On commence par Thomas. Tiens, donc tu as la parole.
LinkedIn. Je suis LinkedIn, Thomas Gentilhomme. Twitter, je suis quasiment pas. C'est pas mon truc. C'est trop de drama sur Twitter. C'est pas mon. Okay. C'est trop de mauvaises vibes pour moi. Souvent sur Twitter, je trouve ça un peu toxique des fois. Donc je suis un peu moins. Je fais que de lire, tu vois. Je poste peu. Mais ouais, surtout LinkedIn. C'est une habitude. Je suis actif sur LinkedIn ou sur les Discord. Après, voilà, tu vois, Discord, la communauté JavaScript francophone.
Ça marche. Ok, on essaiera de mettre ça en dessous de la vidéo YouTube. Khalid,
chez moi.
C'est une réponse.
Je fais beaucoup de télétravail.
C'est une réponse.
Je fais beaucoup de télétravail, donc c'est super. Je suis à la maison, au chaud. Sinon, non, je suis journée sur LinkedIn aussi.
Sur LinkedIn aussi. Ouais. Khalid Jebari.
Oui.
D'accord, exactement.
Ok. Je dois être le premier Khalid Jebari, du coup. Il n'y a pas de suffixe 1, 2, 3.
Je te confirme, quand je cherche, je tombe directement sur toi. Peut-être parce que tu es dans mes contacts. Gabriel.
Dans une crêperie bretonne. Non, ouais, LinkedIn. Alors, j'essaie d'être actif un petit peu, mais je fais pas grande activité. J'ai pas plus de réseaux sociaux que ça. Sur Discord aussi. Je parle beaucoup avec de devs un peu random.
Sur quel channel est-ce qu'il y a des.
Plus par, tu vois, MP, mais je suis sur 2-3 communes de devs, mais tu vois, je traîne sans. Voilà, toujours en étant passif.
En tout cas, sur LinkedIn, on peut te trouver.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bah, je vous remercie beaucoup, messieurs, en tout cas, pour finir, d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que ce n'était pas un exercice facile. Je pense que la mission d'avoir mis les mains dedans, je pense que vous les avez mis jusqu'au coude et plus. Et vous avez mis les mains, c'était hyper intéressant. Merci, messieurs.
Merci à toi.
Merci à toi.
Ciao.
Gros podcast.